sommes en train de traverser une rue à Chamalières. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la nature. Et bien justement, mettez-vous dans la peau d'un hérisson par exemple qui traverse la rue, ou un écureuil, ou n'importe quel autre animal. Et parfois, c'est le choc. Le choc avec un véhicule, ou bien ça peut être des blessures graves avec d'autres activités humaines. Et nous allons donc nous rendre dans un établissement qui soigne les animaux sauvages, blessés ou en détresse, blessés après un choc avec un véhicule ou après une activité humaine. On va découvrir ça avec l'association Pense Bête et on va en pousser les portes tout de suite. Vous me suivez ? C'est parti.
Découvrir l'Auvergne.
H2O vous emmène en balade.
Je vous invite aujourd'hui à découvrir l'extraordinaire travail accompli par l'association Pense Bête qui, depuis plusieurs années, vient au secours des mammifères, reptiles et amphibiens blessés ou en détresse. Cette association basée à Chamalières a été créée par un groupe de passionnés, d'amoureux de la nature, qui ont suivi le projet fou du naturaliste Laurent Longchambon. Il s'agit d'un centre de soins qui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accueille et soigne les animaux sauvages victimes d'accidents ou d'actes de malveillance. Je vous invite à pousser les portes de Pense Bête et de son centre de soins, où nous sommes accueillis par l'une des forces vives de l'association, Marie Lortier.
Découvrir, observer,
s'évader, respirer,
contempler. H2O en balade.
Et bonjour.
Bonjour.
Il adore.
Ça m'énerve les gens comme ça. Comment
ah bon
tu fais?
Je sais pas, je dois avoir une horloge dans la tête, je suppose. Allez, on va rentrer, donc on va pas parler trop fort. Donc il y a des blouses à mettre.
Oui, vraiment, on a le côté, ça c'est réglementaire, mais de toute façon, on n'a pas envie de se salir, hein, de toute façon.
Ouais.
Donc vraiment, on a un protocole, à chaque fois, les bénévoles doivent vraiment venir s'équiper en chaussures qu'ils laissent ici, pour laisser tous les microbes ici. Uh-huh. Ils s'équipent en blouse, en gants, en latex, comme ça ils sont prêts à travailler directement.
Combien de patients en ce moment ?
Alors, en ce moment, viens, on va voir directement les tableaux, comme ça. En fait, on a encore beaucoup de hérissons qui sont en hibernation. Donc, qui ont passé des jeunes qu'on a élevés en fin de saison. Donc, des jeunes qui sont arrivés ici, qu'on a dû biberonner à la main donc en septembre, octobre. Et du coup, ils n'avaient pas le poids pour passer l'hiver dehors. Donc, on les a gardés en hibernation dans les enclos extérieurs. Donc là, tu peux voir qu'il y en a encore... Il y en a une trentaine, là.
Ah oui.
Donc, voilà. Donc,
oui.
Vu que les beaux jours arrivent, on est en train de programmer des relâchés, là. On a des sites de relâchés qui sont adaptés à leur survie. Uh-huh. Donc, où il n'y a pas trop de routes, qu'il n'y a pas de pesticides, que c'est vraiment des endroits qui sont préservés.
D'accord.
Où on sait que les gens ne vont pas tondre à outrance, qu'il n'y aura pas d'élagage intensif, où les tas de bois vont rester pourrir gentiment. Mmh. Et donc, c'est vraiment des gens, on recherche en permanence ce genre de site. Et après, vraiment, on sait qu'il y a du suivi, il y a un œil, il y a un regard, du coup, sur ces relâchés par la suite. Donc, tout ça, tu vois, ça va sortir dans les semaines qui viennent. On a un renard en extérieur. Ce renard, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Il a été trouvé en bord de route, mais avec une luxation de la patte arrière droite, une grosse plaie sur la patte gauche. En fait, il ne pouvait plus trop bouger. Donc on était un peu inquiet, on s'est dit est-ce qu'il va pouvoir survivre. Mmh. Donc il a été mis dans un espace limité au début, pour pas qu'il trop qu'il bouge. Maintenant il a été transféré en enclos extérieur et miracle, c'est que maintenant il arrive à monter tout en haut de l'enclos pour se percher et regarder ce qui se passe.
D'accord.
Donc c'est encore une belle victoire. Voilà.
Donc hérisson, renard, voilà. Et les autres pensionnaires sont lesquels ?
Alors et là on a encore beaucoup de chauves-souris aussi qui ont hiberné avec nous aussi. Après, c'est vrai que là, on commence à rentrer dans la période où on commence à accueillir les juvéniles de tous ces animaux. C'est la période où donc il y a eu les premières reproductions, notamment le renard, les écureuils, c'est les premiers souvent. Donc on a déjà eu des écureuils juvéniles qui ont été trouvés au sol, donc tombés du nid. Donc parfois, ils ne survivent pas parce que la chute se fait de plusieurs dizaines de mètres parfois. Donc c'est des petits qui font 50 grammes. Donc évidemment, c'est très difficile de savoir quel est l'impact d'une chute comme ça. Mais c'est quand même des bêtes très très solides sur des portées de 4 ou 5 des fois. Et ils survivent tous en fait.
Ah oui.
Donc c'est vraiment aussi miraculeux. Mais donc là, on commence à avoir des jeunes. Voilà, on a un jeune là qui, ça y est, qui commence à être sevré, il commence à manger du solide, donc il est dans la petite cage là à l'intérieur. Et on a un levreau aussi qui a été retrouvé aussi isolé. Donc les levreaux, c'est toujours compliqué parce que les gens, quand ils voient un levreau en fait au sol dans un champ ou en bord de chemin, se disent oh la pauvre petite bête. Et en fait voilà, c'est vrai que la mère va forcément laisser le petit en fait caché dans l'herbe et ne reviendra que l'allaiter de temps en temps. Donc c'est vrai que avant d'intervenir, souvent les conseils qu'on donne aux gens par téléphone, c'est vous surveillez pendant quelques heures et là vous verrez vraiment s'il faut intervenir ou pas, si la mère est revenue le chercher ou pas. Donc il y a beaucoup d'animaux qui finalement, les jeunes, même très très jeunes, vivent seuls les trois quarts de la journée et la mère vient juste les allaiter.
En croyant bien faire, on peut, sans le vouloir, être maladroit et appliquer de mauvais gestes. Avant toute intervention, il est nécessaire d'appeler l'équipe de Pense Bête qui vous donnera tous les conseils nécessaires pour éviter les erreurs. Dans un instant, nous vivrons un moment unique et émouvant en compagnie de Marie-Laure Thierry.
Respirer. Apprendre. S'évader. Découvrir. H2O en balade.
Marie-Laure Thierry ne compte pas ses heures bénévoles pour soigner des animaux qui, sans pense-bête, seraient voués à une mort certaine. Des animaux qui, parfois, arrivent tout jeunes, comme la petite bête que nous allons découvrir ensemble.
On a reçu, il y a 10 jours, une petite renarde, une jeune, qui avait 1 à 2 jours. Et donc, il faut lui donner le biberon toutes les 2-3 heures. Voilà, et donc ça, elle revient de loin aussi parce qu'en fait, elle avait encore cordon ombilical. Elle venait de naître, je pense, la veille ou l'avant-veille. Et elle a été découverte par une promeneuse. Dimanche, il y a 10 jours. Et c'est une belle histoire parce qu'en fait, elle l'a trouvée. En fait, il y avait les petits corps de ses frères et sœurs au sol. Il y avait des traces de morsures. Donc, c'était pas très beau à voir. Et elle a quand même été attentive, cette promeneuse. Elle a regardé de plus près. Et la quatrième, elle était vivante et pas abîmée du tout.
Ah oui.
Elle n'était pas blessée. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un diagnostic dès qu'elle est arrivée. Elle n'était pas déshydratée. Donc, la scène devait venir d'arriver. Et donc, du coup, sauf que c'est beaucoup de travail. Là, du jeune renard comme ça, c'est vraiment. Faut vraiment être présent. Allez, allons-y.
On est dans une autre salle, c'est la salle de soins ici,
là,
c'est ça?
C'est la salle de soins, où en général c'est là où on parle moins fort, parce que donc, c'est ici où il y a vraiment le suivi, quand c'est des bêtes qui sont pas très bien. Donc le soigneur passe et chaque jour pour vraiment faire le point sur ces bêtes qui sont vraiment soit blessées, soit malades. Donc vraiment c'est là où on a vraiment le nécessaire pour intervenir. Et après une fois qu'elles sont stabilisées, tous ces animaux sont stabilisés, ils passent en salle de repos. À côté, où là, du coup, on peut vraiment avoir un suivi plus lâche, on va dire. Il y a quand même les bénévoles qui passent chaque jour pour remettre l'alimentation, nettoyer, voir si tout va bien. Mais c'est vrai que là, on garde vraiment visuellement les bêtes les plus abîmées, on va dire, ou les moins stables. Voilà. Et notamment pour les juvéniles, comme c'est le cas en ce moment.
D'accord. Donc là, vous êtes en train de nous dire, Marie, qu'il y a à l'intérieur de cette petite caisse... petite renarde.
Voilà, donc là, c'est vrai que d'habitude, on parle pas trop fort, mais en fait, elle est encore sourde et aveugle.
D'accord.
Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'impact à parler plus fort. Parce que c'est vrai que sinon, il y a vraiment un protocole très, très strict, en fait, pour le soin des juvéniles. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a vraiment une formation qui est faite par le soigneur. Donc, c'est les bénévoles qu'on trouve le moins, parce qu'en fait, il faut être très disponible. C'est-à-dire qu'il faut venir ici toutes les 3 heures.
Ouais, il ne faut pas compter ses heures, mais toutes les heures comptent.
Voilà. C'est magnifique. Et c'est tellement vrai. Et en fait, ça veut dire qu'il faut souvent une seule référente par animal. Le jeune soit habitué à une seule odeur humaine.
Mais c'est adorable. Oh, mes amis qui vont nous écouter là, si vous saviez la chance qu'on a de voir ça, c'est très émouvant. Une petite femelle renarde qui a, rappelez-moi...
Elle a 10 jours.
10 jours.
10 jours.
Oh mon Dieu.
On la reconnaît pas. Donc ce redoutable prédateur de campagnol, voilà, qui peut être aussi très fragile quand il débute dans la vie et qui lui arrive plein de malheurs. On en a quand même beaucoup chaque année.
Ouais. Et pourtant, tellement essentiel et indispensable, surtout dans des régions comme les nôtres qui sont justement atteintes par les pullulations de campagnols terrestres.
C'est important de le rappeler.
Vous avez dans les mains un auxiliaire de l'agriculture qu'il faudrait définitivement retirer des espèces nuisibles parce qu'on ne comprend pas ce classement. C'est inimaginable.
Ben c'est vrai que là, nationalement, il y a eu quand même de nombreuses études depuis plusieurs années. Hein. Et c'est vrai que c'est quand même un prédateur important dans la chaîne alimentaire, dans le milieu sauvage. Donc c'est vrai que là, il y a quand même Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas.
Cette petite femelle renarde est une miraculée. On ne sait pas comment ses frères et sœurs et sa mère sont morts. On le saura probablement jamais. Mais il est fort à parier que la sauvagerie de certains n'est pas étrangère au carnage auquel a échappé cette petite bête adorable qui a trouvé une maman de substitution en la personne de Marie-Laure. Dans un instant, suite de notre découverte des locaux de Pense-Bête et de ses pensionnaires.
Comprendre la nature en Auvergne.
Apprendre. S'évader.
H2O en balade.
Nous découvrons ce matin le centre de soins pour animaux sauvages blessés ou en détresse de l'association Pense-Bête. Mammifères, reptiles et amphibiens peuvent être pris en charge par cette structure qui œuvre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les bénévoles de Pense-Bête ne comptent pas leurs heures et sont toujours prêts à se mobiliser pour soigner un animal sauvage. Sans eux, c'est la mort garantie. Marie-Laure Thierry fait partie de l'équipe de Pense-Bête depuis quelques années. Elle nourrit en ce moment une petite femelle renarde, toutes les 3 heures au centre. Nous la rejoignons dans la cour de l'association, où elle nous explique comment nous devons nous comporter face à un animal blessé.
Quand on se promène, quand on est sur la route et tout ça, on voit un animal qui paraît être au sol, qui paraît être un peu inconscient. La première des choses, c'est de regarder s'il est blessé, s'il est encore conscient. Regarder si, voilà, si c'est pas dangereux pour soi déjà, si on s'arrête au bord de la route. Et de là, quand on est équipé d'un téléphone portable, on prend une photo et on appelle le numéro d'urgence de Pense-Bête tout de suite. En fait, on ne touche pas un animal tant qu'on n'est pas sûr de ce qui se passe.
Et là, vous donnez les consignes nécessaires
pour... C'est nous qui orientons, savoir s'il faut vraiment prendre l'animal, s'il faut intervenir. Souvent, en ce moment, là, on est dans le cadre des naissances de juvéniles. On veut trop souvent intervenir sur des animaux qui, parfois, sont seuls sans leurs parents. La journée et que la mère vient juste les allaiter après. Donc voilà, souvent on conseille d'appeler avant d'intervenir. Et de là, si c'est un animal qui est blessé ou malade, on va vous dire de le prendre avec des gants ou avec une couverture pour pas toucher l'animal au cas où il soit porteur d'une maladie. S'il est là, c'est pas pour rien. Et de le mettre dans un carton, au calme, avec une bouillotte d'eau chaude dans le fond du carton, bien isolé, pas de radio, pas de chien qui aboie à côté, pas de cigarette. Et là, prendre rendez-vous avec l'ensemble de soins. Ça, c'est dans le cas où on intervient.
Mais c'est vrai. Pas ni eau. Ni nourriture. Hein.
Pas de médicaments, pas de nourriture. C'est vrai que souvent, c'est qu'on veut bien faire. On est tellement stressé de voir un animal dans cet état-là. On veut faire quelque chose, on est dans l'action. Et c'est vrai que finalement, nous, le conseil, c'est de ne rien faire. Un animal qui est malade ou blessé ne mangera pas. Ou alors, il va aller de travers et il va s'étouffer. Donc, ce qui fait que même quand ils arrivent ici, des fois, on leur laisse un temps de repos parce qu'ils ont subi la voiture, ils ont subi un contact avec l'humain. Donc, déjà, ils sont en stress, même malades ou inconscients. Donc, déjà, nous, même nous, on les laisse en fait au repos avant d'intervenir. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment les conseils, c'est appeler avant d'intervenir sur un animal. C'est vraiment le meilleur conseil.
Alors ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu dans les locaux de Pense-Bête et je ne reconnais absolument pas le jardin. Ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup organisé. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on voit là d'ici. Là.
Alors c'est vrai que là, petit à petit, on arrive à avoir des espaces supplémentaires. Donc là, c'est vrai que toi, tu as dû voir cette partie-là d'enclos qui sont les premiers, celui du fond, celui qui est à gauche. Mmh. Mais là... Celui qui est sur toute la gauche, le grand là, c'est celui qu'on a construit l'année dernière pour accueillir le bassin destiné aux mammifères semi-aquatiques, notamment les loutres. Et donc voilà, il a été fini, il y a eu des petites finitions qui ont été faites par Pascal il y a 2 semaines là, et donc il est opérationnel. Donc là maintenant, c'est vrai que tout ce qui est loutre, ça peut servir au cistude aussi, qui est une espèce de tortue de la région.
Oui, parce que vous accueillez aussi les reptiles, hein, et amphibiens éventuellement.
Ouais. Voilà, depuis 2018, on a la capacité pour accueillir donc reptiles, amphibiens.
Alors vous avez parlé de Pascal, il est avec nous Pascal, hein. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un peu le monsieur bricolage finalement de l'association, c'est ça ?
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez fait ? Expliquez-nous un petit peu. Là.
Alors en fait, avec Laurent puis un petit groupe, on a conçu l'enclos en fonction à la fois de la place disponible et de nos besoins. Donc y avait une partie, métallique, c'est-à-dire la cage, l'enclos lui-même, et puis une partie bassin qui était autre chose.
On peut s'approcher du bassin technique, éventuellement ?
Bien sûr. Alors, attendez, je vais l'ouvrir, si j'y arrive. Voilà. Donc, à l'entrée de l'enclos, nous avons un sas qui fait à peu près 1 mètre carré, avec donc 2 portes. Donc le soigneur rentre, referme derrière lui, et peut ensuite rentrer en ouvrant la deuxième porte, rentrer directement dans le sas, donc aucun risque d'échapper des animaux. Et dans cette partie de l'enclos, donc on a ce fameux bassin qui fait 6 mètres de long, 1m40 de large, 60 de profondeur. C'est une eau qui est filtrée en permanence avec un système, ce que j'appelle un groupe technique qui est là-bas. L'eau est, on entend les bloop bloop d'ailleurs, ce qui veut dire que l'eau est vraiment très propre. Par exemple, une loutre va être nourrie avec du poisson frais. Donc, il va y avoir des morceaux de nourriture qui vont traîner. Il peut y avoir des déjections des animaux, etc. Donc, ils vont être reprises et filtrées par le système. Et au final, on aura toujours un bassin propre, même si l'eau peut paraître un petit peu chargée, mais c'est pas gênant du tout. Donc voilà, pour le bassin loutre, en fait.
On se rapproche avec... le plus possible, finalement, d'un milieu naturel.
Ah, tout à fait. Hein. Tout ouais. à fait. C'est-à-dire que l'eau bougera un petit peu. Bon, elle sera pas aussi vive que dans une rivière, c'est évident. Mais l'animal pourra évoluer à son aise, à la fois sur du terrain, de la terre battue au gazon, et en même temps de l'eau.
Témoigner, raconter, partager. H2O en balade.
Nous sommes aujourd'hui à Chamalières, dans les locaux de l'association Pense Bête, une association qui vient au secours des mammifères, reptiles et amphibiens. Notre guide est Marie-Laure Thierry. Elle nous permet d'entrer dans les coulisses de l'association et de découvrir l'extraordinaire travail qu'effectue l'équipe de Pense Bête pour soigner, guérir et relâcher des animaux qui, sans cette action, seraient voués à une mort certaine. Nous allons maintenant entrer dans l'enclos des hérissons qui vont bientôt retrouver la liberté.
Oui, là on est vraiment dans la phase où la météo s'améliore, donc on va pouvoir relâcher tous les hérissons qui ont passé l'hiver avec nous en enclos. On est en train de programmer petit à petit là, donc, des sorties de hérissons. Donc là les deux enclos qui sont ici en fait sont remplis il y a 14 et 15 hérissons dans chaque. Donc voilà, dans plusieurs cabanes isolées de chaque côté. Voilà, mais c'est vrai qu'on en a déjà, on a déjà relâché hein, certains animaux, notamment t'as pu voir ici, c'est dans cet enclos qu'il y avait le chat forestier qui était arrivé en novembre, avec une sacrée grosse fracture du bassin et qui s'est très très bien remis. Donc ça, on l'a relâché en mi-février. Donc le putois qui était dans cet enclos que tu as vu qu'on avait relâché ensemble en novembre.
Petite et donc, voilà. Femelle putois, magnifique, voilà. Qui visiblement s'est bien accaparé les lieux, elle s'y plaît bien.
Alors là c'est vrai qu'on, pour l'instant on est assez prudent, mais on a fait un suivi au piège photo du terrain où elle a été relâchée. Et en fait, c'est une belle surprise, c'est qu'on la voit faire des allers-retours sur les pièges. Là où son gîte artificiel avait été installé les premières semaines, elle a creusé des galeries en dessous dans le pierrier. On la voit sortir, re-rentrer sur plusieurs semaines. Là, ça fait 2-3 semaines qu'on ne la voit plus, mais elle a pu s'éloigner, se rapprocher de la rivière, changer aussi. Parce que nos odeurs qui venons relever les pièges tous les mois, peut-être que c'est des odeurs qui ne lui conviennent pas. Donc elle s'est peut-être déplacée aussi. Mais en tout cas, on l'a vue jusqu'à il y a 2-3 semaines sur les pièges photos. Donc c'est une belle réussite.
Elle a peut-être rencontré un beau mâle putois qui lui a dit « Allez, viens Popol, viens Popol, viens
ah, !» On vous en donnera des nouvelles très bientôt, je pense. Fais attention au sol, il y a peut-être des petits caca de hérissons.
Il y a la tête, hein.
Marie, on vient d'ouvrir un enclos. Il y a à l'intérieur des petits hérissons qui vont bientôt retrouver la liberté. Vous avez...
Petits...
Oui, et... ah bon mes costauds.
Mes costauds.
On ne les voit pas parce qu'ils sont planqués, c'est
ah,
normal.
Ah, tu vas voir.
Et vous avez petite boîte qu'on achète pour aller chez le vétérinaire avec le
voilà,
minou.
Voilà, des boîtes de transport, ouais.
Voilà, et donc vous allez rentrer dans l'enclos et vous allez commenter ce que vous allez faire.
Voilà.
Allez hop, c'est parti.
Donc là, on parle plus doucement parce que là, c'est quand même des animaux... qui ont passé l'hiver là, donc c'est vrai qu'ici maintenant, vu qu'on est en condition un peu milieu naturel, on limite vraiment, on parle pas quand on vient ici, on prend les gamelles, on nettoie, on remet la nourriture et c'est tout en fait, et on change la paille quand il le faut. Donc là, évidemment, avant de relâcher un animal, on le pèse, parce qu'évidemment il faut qu'il ait le poids adapté pour suivre dans la nature. On les pèse assez régulièrement, donc on sait que certains ont le poids, même plus que le poids, ils ont bien profité. Mais voilà, il faudrait pas qu'un animal fasse en dessous de 600 grammes pour le relâcher dans la nature, là, quand même. Donc voilà. Là, comme vous pouvez voir, il y a du monde. Et ils sont pas contents de nous voir.
Alors, comme c'est un animal nocturne, le hérisson, oui. Là, on est en plein jour, bien évidemment. Il est en boule sous de la paille.
Voilà. En fait, c'est des animaux qui dorment toute la journée. Bon, ça peut arriver qu'ils sortent pour aller grignoter un petit truc. En général, on ne les voit pas la journée. Vous ne verrez, si vous voyez un hérisson en plein jour chez vous ou en vous promenant, il faut intervenir. C'est pas normal. Mais là, on peut voir déjà sur ces deux individus qu'ils ont déjà un beau poids. Voilà. Donc on va voir. Voilà. Donc. Et vous pouvez contrôler qu'en fait, ils ont un instinct qui est déjà sauvage. Parce que regardez, dès qu'on touche, voilà. Il souffle, il sursaute, il n'est pas content du tout.
Et il dresse les...
Voilà, et je pense qu'il va grogner même quand je vais le prendre. Donc d'accord. Ça veut dire que c'est un animal qui est viable, qu'on peut relâcher et qui n'est pas du tout imprégné de l'homme.
Il a le bon comportement.
Voilà.
Hop. Et la boule. Voilà. Heureusement que vous avez des gants, Marie. Hein.
Oui, oui.
Même avec les gants, ça...
Vous entendez comment ça frotte?
Ah oui, oui. Oui, là, il se met vraiment en boule. On sent qu'effectivement, il n'est pas content.
Voilà. Ah.
Il vous sent.
Vous entendez? Pas content du tout. On va voir. Il est en colère. Voilà.
H2O en balade. Sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Retour dans le jardin de l'association Pense Bête à Chamalières. Cette association a créé il y a quelques années un centre de soins pour mammifères, reptiles et amphibiens, le seul centre de toute l'Auvergne. Chaque année, de nombreux animaux sauvages y sont accueillis et soignés afin qu'un jour, ils puissent retrouver la liberté. Certains de ces animaux arrivent avec des blessures graves. L'association fait alors appel à des vétérinaires partenaires qui effectuent les diagnostics via radio ou scanner dans le but d'établir le protocole de soins. Ensuite, ce sont les bénévoles qui prennent le relais et suivent de près l'état des petits pensionnaires du centre. Nous retrouvons Marie-Laure Thierry et Pascal dans le jardin de Pense-Bête où un enclos attire mon attention. Je regarde discrètement et mon regard croise celui d'un renard.
C'est le renard dont on parlait tout à l'heure, qui avait une grosse luxation de la patte arrière droite. Voilà, ça a été très compliqué pour lui. Là, ça fait deux ou trois semaines qu'il est là. Mais là, on peut le voir à l'intérieur. Hein, il regarde d'un air stressé le bruit qui se passe. Voilà, mais il va mieux, mais on ne sait pas s'il a retrouvé toutes ses capacités encore. Voilà.
Combien d'enclos au total? J'ai pas fait le compte.
On va être à 7. 7 enclos, 7. 7 enclos grillagés, ouais.
D'accord. Voilà. Et puis, il y a des petites caisses. C'est...
Alors, ça les petites quoi, caisses en bois, c'est une transition aussi pour les hérissons. Parce que quand ils viennent de l'intérieur... et qui sont stabilisés, avant de les mettre dans les grands enclos à plusieurs où ils peuvent gambader librement la nuit, d'abord on fait une transition sur ces petits enclos mobiles, comme on les appelle, où ils sont juste par groupe de deux, simplement. Et là, sur plusieurs semaines, on voit s'ils gardent le poids qu'ils ont gagné à l'intérieur, on voit si déjà, quand ils passent des nuits fraîches et quand ils sont à l'extérieur, s'ils gardent le poids. Parce que s'ils reperdent du poids, c'est qu'il y a un souci encore quelque part, et donc il faut recommencer la chaîne opératoire. Voilà, et voir d'où vient le problème encore une fois.
Donc il y a réellement un suivi permanent. Hein. Oui, oui. C'est, il n'y a pas de week-end ici. Hein.
Ah non.
Ni de vacances. Hein.
Non.
Oui, c'est une présence permanente.
Les animaux, c'est tous les jours. Eux, ils ne partent pas en vacances, ils ont besoin de manger tous les jours. Et ils ont besoin de soins tous les jours. Donc là, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a une équipe de 40 bénévoles. C'est à tour de rôle pour que nous, chacun, pour que chacun d'entre nous puisse prendre des vacances en fait. Parce que si on est deux, ça ne tient pas. Ce n'est pas possible. Oui. Donc c'est pour ça qu'on forme en permanence des nouveaux bénévoles.
Comme tout est bien étudié chez Pense-Bête et que le moindre mètre carré compte, au-delà des enclos fixes, il y a aussi des enclos mobiles que Pascal, le génie bricoleur, a confectionné avec des petites astuces pour garantir le confort des petites bêtes.
Voilà, donc monsieur hérisson.
Oui, il y a du hérisson.
Il y a du hérisson là-dedans. Donc ils ont leur casse-croûte. On voit des verres de farine déshydratée, des croquettes, de l'eau, donc ça leur suffit. Alors là, ils sont pelotonnés dans la paille parce qu'il fait, il fait encore bien frais, puis ils vont s'activer. Ils sont encore au ralenti, hein, parce que vu la fraîcheur, ils sont pas encore hyper actifs. Mais bon, là, ça commence à aller travailler, un peu de soleil, plus de lumière. Donc là, ils sont ceux qui vont faire 800, 900 grammes, on va les relâcher, quoi. Ils sont prêts à partir.
Eh oui. Après. Ouais. La torpeur de l'hiver, parce que ce sont des hibernants.
Alors au début, on avait mis des grillages au-dessus pour empêcher les pies, qui sont des corvidés, donc de venir attaquer les petits. Après, on s'est aperçu qu'on avait des problèmes avec les mouches. les mouches qui viennent pondre sur les hérissons et qui pondent des vers, lesquels vers peuvent infecter les hérissons. Donc on est obligé d'occulter parce que les mouches ne rentrent pas dans des endroits qui sont noirs, ils rentrent dans des endroits allumés. Donc c'est relativement occulté, mais cela dit, ça les empêche pas de vivre, bien au contraire.
Donc c'est du polystyrène, hein, c'est voilà, ça.
C'est ça. Polystyrène, donc ça nous permet d'être
habituellement, ouais.
Pardon.
C'est ce qu'on utilise pour l'isolation.
Voilà, tout à fait. Le nom commercial, c'est du styrodur. Ça se trouve en magasin de bricolage. Alors, faut être un petit peu inventif, quoi. Faut trouver tout un tas de petites solutions. Pareil, nos enclos sont transportables. On voit en deux parties, on voit des poignées, des choses comme ça pour pouvoir les déplacer. Ceux-ci, ce sont des enclos semi-provisoires. On peut les déplacer facilement. Alors que les autres sont des enclos fixes. On peut pas les bouger.
C'est précieux d'avoir un bricoleur comme vous dans une association comme celle-ci.
Ça peut aider. Mais surtout, on réfléchit ensemble. Quelle est notre difficulté? Quelle est notre contrainte? Il ne faut pas de bois traité, par exemple, parce que les animaux peuvent s'intoxiquer. Il ne faut pas des trucs en caoutchouc mou parce qu'ils vont les grignoter. Il y a tout un tas de choses comme ça qui font qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. Et parfois, on change plusieurs fois notre fusil d'épaule parce qu'on voit en fonction des difficultés qu'on rencontre s'il faut changer le fusil d'épaule, comme je disais. Et je ne suis pas chasseur, bien sûr.
Et vous ne chassez que les images, vous?
Tout à fait, ouais. C'est tellement mieux. Alors, moi, chez moi, j'ai des animaux qui viennent visiter la nuit. C'est assez rigolo. J'ai blaireau, renard, j'habite sur la commune. Blaireau, renard, j'ai une fouine aussi qui vient, parfois deux fouines. J'ai des lairaux, puis bien sûr, en journée, j'ai les écureuils. J'habite près d'un parc, hein, donc c'est assez...
On ne va pas dire où vous habitez, parce
non.
que... On ne sait jamais. Ceux voilà. qui portent les fusils pourraient être amenés à y faire quelques visites.
Voilà,
ils sont bien
ça.
Capables de tout parfois.
H2O. Partez en balade.
Suite et fin de notre balade à la découverte de l'association Pense Bête et de ses actions en faveur des mammifères, reptiles et amphibiens blessés par les activités humaines. La finalité des soins, et quand tout se passe bien, c'est bien entendu de relâcher les animaux qui ont retrouvé toutes leurs facultés. Mais le retour à la liberté ne s'improvise pas. Il faut choisir le bon moment, la bonne période et surtout le bon endroit. C'est la raison pour laquelle Pense Bête recherche en permanence des lieux, des environnements favorables pour le retour à la nature. Pierre Sauva est arboriculteur bio, producteur de fruits dans le sud de l'agglomération clermontoise, entre Saint-Saturnin et Saint-Amand-Talande. C'est dans l'un de ces vergers, à la tombée du jour, que va avoir lieu un relâcher de hérissons. Les vergers de Pierre Sauva représentant un milieu idéal pour cela, comme nous l'explique Marie-Laure Thierry de Pense Bête.
Tout à fait, parce qu'on étudie bien en amont les endroits où on peut relâcher les hérissons. Parce que quand c'est des hérissons qui sont blessés, qu'on a momentanément en soin, prioritairement, on va les relâcher sur l'endroit d'où ils viennent, pour qu'ils retrouvent leur terrain. Mais s'ils ont été retrouvés près d'une route ou dans un endroit où c'est traité, on va pas les remettre là où ils ont eu des soucis. Donc ce qui fait qu'on a besoin de sites de relâcher où il n'y a pas de route à proximité, où c'est comme ici, par exemple, c'est en biologique, c'est des parcelles en bio, où on sait qu'ils ne seront pas dérangés, il y a des surfaces en friche, qui ne seront pas tondues à l'extrême. Donc on cherche des endroits vraiment de ce type, sur beaucoup d'hectares, pour relâcher dans des bonnes conditions les hérissons, qu'on ne travaille pas pour rien, en gros. Voilà.
Pierre, c'est en parfaite cohérence finalement avec votre approche de l'agriculture et de votre activité de verger, d'accueillir finalement la faune sauvage, parce que des hérissons par exemple sont des auxiliaires que vous accueillez par la même occasion.
Et bien en fait, il faut accueillir tout le monde. Les hérissons sont des auxiliaires parce qu'ils participent à l'équilibre écologique d'un milieu, quel qu'il soit, hein, que ce soit un verger ou pas. Et après, nous, faut qu'on travaille à maintenir un équilibre au niveau de l'ensemble de la faune et de la microfaune, mais que ce soit en extérieur et en intérieur. On travaille aussi sur l'équilibre biologique du sol pour que tout ça soit en équilibre et qu'on évite au maximum les effets de pics de population, d'un insecte qu'on souhaite pas voir, des choses comme ça. Donc... essayer d'avoir, un fonctionnement le plus naturel possible du verger pour qu'on intervienne, juste en routine et pas en catastrophe, comme ça se fait parfois.
Les chenilles du Carpocaps, ça peut faire partie du régime alimentaire du hérisson?
Oui, mais il va falloir qu'il soit rapide, là, parce qu'elles ne sont pas souvent accessibles à ras du sol. En fait, elles descendent de l'arbre uniquement avant d'aller hiberner.
D'accord.
Mais pourquoi pas hein.
Pourquoi pas. On ne sait jamais. Le carpocaps qui est donc le ver du fruit. Hein,
voilà, c'est le ver de la pomme qui est amené par un petit papillon de nuit.
Ouais. Pierre, vous avez connu Pensebête comment?
Je ne me rappelle plus bien.
Je me rappelle très bien. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire. C'est qu'en fait, dans le cadre de mon travail, c'est mon supérieur hiérarchique, on va dire entre guillemets mon chef, si je peux l'appeler comme ça, Sébastien, je fais une petite dédicace, qui en fait m'a dit, mais moi j'ai un très bon copain qui a plusieurs hectares où c'est pas traité, c'est en bio, pour ton association, là je pense qu'il faut que tu le contactes, ça peut être vraiment un beau partenariat. Donc je me suis empressée de l'appeler et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Voilà.
Et Pierre, vous avez dit bingo tout de suite.
Hein. Ah oui, tout de suite, il ne faut jamais hésiter quand une opportunité comme ça se présente.
Le moment est venu d'ouvrir la boîte des hérissons dans l'un des vergers bio de Pierre Sauva. Un moment qui se révèle toujours émouvant, mais aussi réjouissant, car c'est l'aboutissement heureux de nombreuses heures de soins et de l'investissement de l'équipe de Pensebête.
Bon, ça peut prendre un peu de temps, hein.
Oui, ça j'imagine.
Parce que là, vu qu'ils sont en boule, un peu stressés par la route, on va leur laisser le temps de sortir.
Vous avez choisi un lieu qui est proche, en fait, de la friche, un lieu ouvert.
Oui, là, dans ce cadre, on va toujours installer ce taquet, comme on l'appelle, donc cette petite cabane qui va rester là quelques jours, le temps que le hérisson connaisse son territoire, s'approprie son territoire. Donc on va lui laisser ce gîte quelques jours pour qu'il puisse aller et venir, et il pourra se réfugier à l'intérieur quand même, s'il ne s'en sent pas prêt à aller plus loin. Et ce qui fait que souvent on le cache sous une haie, sous les ronces, dans la végétation, puis qu'il soit bien caché à l'abri et coupé du vent. Et comme ça, il est en mode de discrétion totale, et c'est lui qui fait sa vie, il décide de sortir quand il veut.
Voilà, la porte est ouverte. Bon courage les amis, hérissons, et surtout gardez du piquant. Important.
Nous ne verrons pas sortir les hérissons restés en boule du fait du stress du voyage. Mais quelques jours plus tard, nous avons reçu de bonnes nouvelles, ils étaient partis et vont vivre leur vie de hérissons pour le plus grand plaisir des bénévoles de Pensebête et de Pierre Sauva qui les accueille dans l'un de ses vergers bio. Il peut compter sur leur présence désormais et sur des auxiliaires précieux qui ne manqueront pas de boulotter quelques vers et petits rongeurs. Merci à Marie-Laure Thierry et à Pascal de l'association Pensebête pour leur accueil, leur enthousiasme et le beau travail effectué en faveur de la faune sauvage. Merci à Loïc Frenéa pour la prise de son et Valérie Pochefeu pour le mixage. Si vous découvrez vous-même un animal sauvage blessé ou en détresse, vous devez composer le 06 46 62 36 89. Merci de votre fidélité aux balades d'H2O sur France Bleu Pays d'Auvergne et rendez-vous le week-end prochain pour de nouvelles découvertes.
Continuez la balade avec H2O sur francebleu.fr.